Bienvenue dans le Move Club. Je suis Roxane, coach et mentor pour entrepreneurs et professeur de yoga. Le Move Club, c'est la communauté de celles et ceux qui se remettent en question, qui s'interrogent sur qui elles sont et ce qu'elles peuvent apporter au monde en y mettant du sens. Le Move Club, c'est un espace safe où l'on prend soin de soi, des autres et de la planète. Que ce soit à travers les partages avec mes invités passionnés et engagés, ou via mes retours d'expérience, j'espère que ces épisodes vous offriront la possibilité d'envisager un monde où l'on est libre d'oser sortir des cases et de créer son propre modèle pour une vie alignée à ses valeurs. Aujourd'hui, je reçois Théodore. Théodore est une personne multi-passionnée et passionnante. Astrologue, auteur de plusieurs livres, chef pâtissier, co-gérant d'un café, podcasteur, la liste est longue. Dans cette interview, nous avons passé en revue les différentes activités de Théodore. Je l'ai questionné sur comment il gérait tout ça au quotidien et quelle était sa recette miracle. Spoiler alerte, elle n'existe pas. Mais avant de passer en revue les activités professionnelles de Théodore, la première partie de l'interview commence par parler de genre, de transidentité et de musculation. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Théodore. Bonne écoute! Hello Théodore, bienvenue sur le podcast.
Bonjour, merci beaucoup.
Comment est-ce que tu vas aujourd'hui?
Ça va plutôt bien, je suis un peu fatiguée car c'était pour la bonne cause, je reviens d'un week-end pour fêter les 40 ans d'une amie, donc du coup je suis un petit peu décalquée, mais ça va, c'est de la bonne fatigue du coup.
J'ai d'ailleurs aussi vu que tu t'étais mis à la muscu.
Oui, et en plus de ça, j'étais levée à 5h ce matin pour, dès 6h, être à la salle. Et j'étais en effet en train de faire les pecs ce matin, donc je suis d'autant plus un peu fatiguée, mais ravie de m'être levée malgré tout.
T'es hyper motivée du coup, genre tu vas te lever tous les matins de la semaine.
En fait, c'est de la motivation qui est née de nécessité parce que j'ai tellement de choses à faire dans mes journées que, en fait, quand je vais au sport en plein milieu de ma journée, ça me casse tout. Et du coup, j'ai tendance ensuite à plus faire grand-chose parce que je suis telle une poule à qui on a coupé la tête. Je cours dans tous les sens sans savoir où je vais, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, on va se coucher plus tôt maintenant, ça c'est sûr. Du coup, je ne peux pas rester jusqu'à 23h, éveillée jusqu'à 23h tous les soirs, ce n'est plus possible. Mais de me lever tôt le matin, comme ça, ensuite, c'est fait. En fait, sur les coups de 8-9h, je suis tranquille. C'est un petit peu l'idée.
En tout cas, bravo pour ta motivation.
Merci. On va voir combien de temps ça dure. Je ne suis qu'à la deuxième semaine, donc rendez-vous dans un mois pour voir si je suis toujours aussi à fond.
Ouais, c'est clair. C'est marrant, j'ai commencé à m'y mettre en janvier.
Trop bien.
Je trouve que c'est trop motivant et c'est trop passionnant comme activité, mais ouais, ça demande tellement d'énergie.
Ça demande de l'énergie, ça demande de la régularité, enfin... Mais moi, direct, en fait, ça m'a fait... parce que j'avais fait de la musculation il y a à peu près 14 ans. J'en ai fait pendant un an. Et ensuite, j'ai arrêté du jour au lendemain pour à la fois soucis de santé, plus d'accès à la salle d'un seul coup, enfin voilà, qui fait que j'ai arrêté et que je m'étais pas remis. Et en fait, j'avais oublié, mais dès la première séance, parce que personnellement, je ne mets pas de musique quand je fais de la muscu, alors que j'ai vraiment besoin de musique tout le temps dans ma vie, et j'adore faire de la cardio aussi, j'adore courir, etc., et toujours avec la musique à fond dans les oreilles, sinon je souffre. Et par contre, la muscu, je fais ça sans musique. Et en fait, passer une heure à se concentrer uniquement sur sa respiration et ses mouvements, qui fait ça actuellement à l'heure des shots de dopamine sur le smartphone? Franchement, il y a quasiment que les personnes qui font de la muscu et les personnes qui font de la méditation, voilà quoi. Enfin, je crois qu'il y a quasiment personne d'autre qui s'astreint à ça en fait dans notre monde occidental riche et surconnecté. Et en fait, ça m'a fait du bien direct dès la première séance quoi, en termes de sérénité, tu sais après.
Du coup, tu fais ça sans musique?
Ouais, la muscu, je la fais sans musique, ouais. Pour le moment, j'essaye vraiment, en effet, de rester concentrée sur... comme en plus, je redébute, j'ai vraiment pas envie de me faire mal. Mais genre, vraiment pas. Et donc, je fais hyper gaffe pour bien ressentir tout ce que je fais. et être à l'écoute, en fait, de moi-même et réajuster si jamais j'ai le moindre doute, etc. Donc, ouais, sans musique pendant une heure. Et ensuite, c'est la récompense de faire la cardio. Genre, je suis en train de faire un trick, tu sais, à mon cerveau. Je suis contente d'aller faire la cardio avec ma musique après. Comme ça, je ne skippe pas ça non plus.
C'est drôle. C'est drôle parce que quand tu dis... c'est une des seules activités où tu mets ton corps en mouvement et juste tu respires et tu penses à rien. Enfin, sorti de son contexte direct, moi j'ai pensé au yoga, mais...
Oui, du coup, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, non, non, mais évidemment, c'est pour ça aussi que je faisais la petite blague, évidemment, quand on dit qui d'autre fait ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai parlé de méditation, même si le yoga est complètement entre les deux, en fait. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas tant de... je pense, d'occasions actuellement, à part le yoga, la muscu, enfin des activités assez spécifiques comme ça, qui ne sont pas des sports d'équipe, qui ne sont pas en effet la cardio où tu peux complètement écouter ton podcast, écouter ta musique tout en allant courir. Et c'est vrai que c'est assez particulier, je trouve. Et ça m'a fait du bien immédiatement. Et je le sens à chaque fois que ça a vraiment tout de suite un effet bénéfique sur ma santé mentale, quoi. C'est assez incroyable.
Ouais, c'est marrant. C'est une activité qui est solo, mais qui à la fois te recharge et te reconnecte, enfin te déconnecte de tout le reste, je trouve. Alors que tu peux faire d'autres activités, comme tu dis, où en fait ton cerveau il reste encore vachement à mouliner, à penser à plein de trucs ou. Enfin, quand tu écoutes des podcasts, tu te reposes pas, quoi.
C'est ça. Mais d'ailleurs, ça, c'est drôle. Toujours un peu des fois les hasards, tu sais, de tomber sur le bon contenu au bon moment. Il y a une personne que j'apprécie depuis quelques années. On n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer, mais qui s'appelle Ilay et qui avait un compte qui s'appelait Astro and Soul. Et maintenant, je suis pas sûre, mais je pense qu'on peut la retrouver en tapant Ilay sur Instagram. Et voilà, peut-être qu'il y a un autre nom derrière. Je ne me rappelle plus. Pardon, Ilay. Donc, ça s'écrit H-I-L-E-I. Et en fait, donc elle avait ce compte d'astrologie pendant longtemps. Et là, récemment, elle a dit qu'elle arrêtait, en tout cas pour le moment, de faire de l'astrologie sur la place publique. Et puis qu'elle allait réorienter son contenu, notamment sur la gestion de la douleur chronique. Parce que c'est quelque chose dont elle a souffert pendant plusieurs années. En errant médicalement, comme ça arrive souvent dans ce genre de cas, et que finalement, elle a vraiment pris conscience que même si c'était des vraies douleurs, que ça venait beaucoup d'un état émotionnel encore compliqué à gérer pour elle, de traumatismes passés, etc. Donc, elle a fait un travail psychologique, et en parallèle de ça, elle s'est mise à soulever des poids, quoi. À soulever des poids très, très fort. Et justement, elle dit, c'est tellement technique que, en effet, c'est sans musique, quoi, parce que tu dois être très concentré sur ce que tu fais. Et puis voilà, on n'a vraiment pas envie de se bousiller le dos en faisant ça. C'est pas l'idée du tout. Et donc, elle dit que ça lui a un peu sauvé la vie depuis un an et que ça l'a vraiment aidé à réguler son système nerveux, etc. Et à peu près au moment où je voyais ça, deux jours après, je suis allée à ma séance de sport et j'ai vécu ce truc-là. Notamment avec une douleur que je me traînais depuis trois bonnes semaines et qui n'arrivait pas à partir. Et en fait, dès ma première séance qui était pectoraux et dos, en fait, je suis sortie, j'étais « Ah, j'ai plus mal !» Je crois qu'il y a quelque chose qui a dû se remettre pendant que je faisais les mouvements. Et puis aussi peut-être par le fait juste de respirer très très fort, de manière appuyée, mais en faisant attention pendant une heure, quoi. Voilà.
Ah, c'est ouf. Enfin, c'est vrai que pour le coup, bouger, c'est la vie. Et... Enfin, je pense qu'on peut en prendre conscience individuellement qu'en se mettant dans l'action parce que tu peux entendre des « vas-y, va bouger », mais je trouve que c'est assez, assez fou, en fait.
Oui, 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 oui.
Et tu sais, on entend souvent un peu les gens qui se mettent au sport et puis, enfin, t'as beaucoup l'excuse de « je sais pas, je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle et tout ça ». Mais il y a tout le temps un pourquoi qui est plus profond en général. Et toi, pourquoi tu t'es mis à la musculation ?
Je pense que là, si je cherche la réponse la plus... Enfin, vraiment basique et assez premier degré, c'est assez simple. C'est qu'en ce moment, je suis très dysphorique, du coup, puisque je suis en début de transition médicale. Et ma transition sociale, elle a commencé il n'y a pas si longtemps, en vrai. Et donc, y a à la fois ce côté très positif où moi j'étais dans le déni pendant très longtemps de moi-même, donc là, je suis dans une phase où plus ça va, plus je suis en train de me reconnecter avec cette masculinité vers laquelle je vais, qui m'appartient déjà, mais que j'ai tellement mis de côté, que j'ai tellement, dont j'ai tellement eu peur, en fait, pendant longtemps, qu'il y a un vrai chemin pour l'apprivoiser. Et à la fois, c'est un énorme soulagement parce que un des plus gros problèmes au début de ma transition, à moi personnellement, c'était justement ma misandrie. Alors, je reste misandre pour les pour une grosse partie des hommes cis, parce que le niveau est pas très très haut quand même. Donc, il y en a des biens, mais on a globalement un problème de fond avec ces personnes-là. Mais malgré tout, du coup, le problème, c'est que j'avais beaucoup de misandrie envers moi-même, alors que je ne suis pas un ex-cis, mais ça m'a coupé de ma transidentité pendant longtemps. Donc, le côté positif, voilà, de m'interroger sur tout ça, d'apprivoiser tout ça, comme je le disais, c'est que là, je suis en train de me sentir de plus en plus soulagée et de plus en plus à l'aise avec cette transmasculinité. Et en même temps, je me sens de plus en plus dysphorique. Parce qu'en fait, aussi, pendant longtemps, j'étais là, mais je ne peux pas être trans parce que je ne hais pas mon corps, quoi. Voilà, je ne déteste pas mon corps. Je peux trouver qu'il y a des choses jolies dans ce que la société considère comme féminin sur mon corps, etc. Donc, j'étais... Mais en fait, je regardais ailleurs. Hein. J'y étais pas vraiment émotionnellement. Mais je ne me retrouvais pas forcément dans les récits que j'entendais de personnes trans qui, quand même, rentraient dans des phases donc, de dysphorie hein, très, très fortes. Mais moi, c'était juste parce que voilà, j'étais pas connectée avec mon identité, donc en fait, ça s'explique. Donc du coup, la dysphorie augmente au fur et à mesure que je me sens de plus en plus en même temps légitime et à l'aise. Donc c'est très paradoxal, c'est vraiment paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, je me suis dit, on va aller à la muscu pour déjà avoir l'impression de ne pas être juste dans l'attente des effets du traitement hormonal, sachant qu'en plus, le traitement hormonal... ça a ses limites aussi, voilà, ça peut pas, ça ne fait pas tout. Et puis j'avais envie, ouais, du coup, de structurer un petit peu tout ça, d'aider, on va dire, le processus et de calmer ma dysphorie. Voilà.
Waouh, belle réponse qui m'amène plein de questions, mais avant ça, je voulais trop rebondir sur le côté misandrie. Enfin, en fait, ça m'a fait penser à des histoires de personnes, par exemple, dans juste une personne homosexuelle, enfin, gay, lesbienne. Genre, t'en as pas mal qui, en fait... Enfin, t'en as pas mal. T'as plusieurs personnes qui, en fait, plus jeunes ou à un moment de leur vie, ont été un peu homophobes totalement. Et parce qu'en fait, elles rejetaient une part d'elles qui était cette part homosexuelle d'elles. Et du coup, quand tu dis cette misandrie et que en fait c'est une part de toi que t'acceptais pas en tant que mec trans, enfin j'ai trouvé ça intéressant.
Oui.
Dans ton discours, tu parles beaucoup de dysphorie et tu dis qu'elle est grandissante. Est-ce que pour les personnes à qui ça parle pas du tout tous ces termes de transition, dysphorie et tout ça, tu peux un peu avec tes mots nous dire ce que c'est pour toi?
Oui, en plus, j'ai failli m'arrêter. Dès que j'ai lu le mot, je me suis dit, est-ce que je m'arrête pour dire, alors pour rappel, pour les personnes, voilà, et puis je me suis dit, c'est pas mon podcast, donc, du coup, je ne connais pas l'audience, donc je vais pas commencer à supposer que les gens connaissent ou connaissent pas. Donc, désolée pour les personnes qui se disent, mais qu'est-ce que c'était? Bravo si vous avez cherché sur Google en attendant. Mais blague à part, donc, en fait, la dysphorie, c'est le contraire de l'euphorie, tout simplement. Donc, quand on est euphorique, c'est qu'on se sent... joyeux, à l'aise, etc. Et quand on est dysphorique, c'est l'inverse. Et donc, dans le cadre de la transidentité, donc pour des personnes comme moi qui ne sont pas à l'aise avec le genre féminin ou masculin qu'on leur a assigné à la naissance et qui tendent à aller vers autre chose, vers un genre autre que celui qu'on leur a assigné à la naissance, on parle de dysphorie de genre pour les moments où on se sent en désaccord avec ce que la société ou ce que nous-mêmes, on projette de genrer sur notre corps, sur notre apparence, sur notre comportement, etc. Donc, quand on n'est pas à l'aise, c'est de la dysphorie. Et à l'inverse, quand on se sent tout d'un coup à l'aise dans notre genre et dans notre expression de genre et dans le regard qu'on peut recevoir, et ben là, on parle d'euphorie de genre. Voilà.
Trop bien. Et du coup, toi, est-ce que tu peux nous partager une expérience d'euphorie de genre que tu as eue du coup en tant que mec trans ?
Et bah pour le moment c'est compliqué, j'ai du mal à trouver pour être tout à fait honnête, parce que comme voilà je le disais, j'ai été un peu dans le déni de moi-même pendant longtemps, donc et là je suis dans la période qui est encore un peu compliquée voilà, parce que très clairement dans la rue je le vois en ce moment, je commence à recevoir de plus en plus de regards un peu de cette personne ne se conforme pas aux règles de genre. Alors, c'est quoi, tu vois? C'est madame, c'est monsieur, et je vois qu'on voit, parce que je commence à avoir un tout début de duvet, donc les gens se disent c'est ça, il y a les cheveux courts, en même temps, il y a des seins, et puis la personne, quand elle parle, elle a plutôt une voix qu'on va dire féminine pour le moment. Et donc, en fait, vraiment, je vois que dans leur regard, il y a tout ce truc-là, et dans leur attitude, et qu'à la fin, ça finit par non, mais ça doit être une femme butch. Et je n'ai rien du tout contre donc les femmes butch, donc pareil, butch. Du coup, ça va être une expression de genre, et d'ailleurs, une personne butch, parce qu'on n'est pas forcément une femme butch, mais du coup, c'est une expression de genre qui va être assez masculine, hein, butch, les bûcherons, les bouchers, voilà, il y a plusieurs choses à quoi ça fait référence, donc avec un côté un peu brut de décoffrage. Souvent, c'est en effet associé pour une femme au lesbianisme, et donc je sens que, voilà, en gros, les gens se disent « Ok, c'est une femme très masculine ». Mais pour le moment, ça termine toujours comme ça. C'est-à-dire que pour le moment, ça se termine jamais en « monsieur ». Au mieux, les gens ne me genrent pas, parce que je pense que les gens se disent « je risque de faire une bourde » ou « je suis pas très à l'aise » ou « j'essaye de respecter ». Mais donc, du coup, c'est difficile d'avoir de l'euphorie de genre, en fait, dans une société où dès que tu sors de chez toi, tu vis ça. Et ça, j'espère que ça va s'atténuer, justement, grâce au traitement. Et donc, j'espère que j'aurai plus d'expérience d'euphorie de genre bientôt. Mais pour le moment, elle se compte un peu sur les doigts d'une main. Après, je sais que la première fois que je suis allée voir quelqu'un d'inconnu qui me réclamait, parce que je travaille dans un restaurant, donc c'était une personne au resto, et un de mes collègues me dit « on t'appelle, il y a quelqu'un qui veut te parler ». Et c'était quelqu'un que je connaissais pas spécialement, donc en fait, je suis allée voir la personne et je me suis présentée. Et c'était la première fois que j'utilisais mon prénom, et donc auprès d'une personne complètement inconnue. Et donc j'étais « bonjour, moi c'est Théodore ». Et en fait... ça m'a vraiment fait du bien aussi de me rendre compte d'à quel point c'était naturel pour moi, parce que le choix du prénom, ça a été toute une affaire, et j'avais vraiment très peur justement de me dire « non, j'ai vraiment l'impression de faire du théâtre et de pas être moi, et qu'en fait ce soit pas ça, ce soit pas la bonne solution, qu'en fait j'ai pas envie de m'éloigner de mon prénom de naissance ». Et c'est sorti tellement naturellement, voilà. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis plus dans des périodes où je sens du soulagement que de l'euphorie à proprement parler.
Ouais, ok. J'ai plein de questions. Il y avait aussi une définition que j'avais envie de parler, parce que vraiment, je pense que les personnes qui écoutent ce podcast, j'avais prévu de faire une espèce de masterclass autour du genre avec quelques définitions. Et tu parlais de homme cis tout à l'heure. Mm. Et en tout cas, je voulais revenir sur le côté cis, qui peut s'opposer à trans. Et quand on dit « je suis une femme cis » ou « je suis un homme cis », ça veut dire qu'on est en accord avec le signe qui nous a... Enfin, c'est pas le signe, mais le genre qui nous a été accordé à la naissance. Et quand on est trans, à l'inverse, c'est l'inverse. C'est qu'on nous a genré comme, par exemple, étant femme, et que nous, on se reconnaît plus comme étant un homme. Et puis, en plus de ça, il y a les personnes qui sont non-binaires et qui, du coup, pour ces personnes-là, qui n'ont pas l'impression d'appartenir à quelque genre que ce soit. T'es OK avec ça ?
Oui, c'est ça. Bah, après, il y a plein... on va dire qu'au milieu, il y a vraiment plein de définitions. Et bon, faut garder de la souplesse, parce que voilà, les personnes aussi vont... des fois, nos identités, elles vont évoluer. Donc, il y a aussi la notion d'être agenre, par exemple, c'est-à-dire de complètement sortir du cadre du genre. Il y a la fluidité de genre, c'est-à-dire je me sentirais tantôt homme, tantôt femme. Et donc, voilà, il y a des petites subtilités comme ça, où c'est intéressant, même si on a du mal des fois à concevoir ce que c'est, des petites subtilités qu'il faut garder. Mais oui, en effet, tout à fait. Au milieu, il y a, on va dire, le spectre de non-binarité avec plein de manières différentes d'être non-binaire. Et actuellement, c'est vrai que fondamentalement, je me retrouverais plutôt dans une forme de non-binarité. Mais je suis encore en train de chercher si, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va perdurer, cette une forme de, même de quête, de, ou même peut-être s'accentuer, en fait, une fois que je serai plus allée vers le masculin, de me dire non, en fait, on va aller vers beaucoup plus de fluidité maintenant que j'ai retrouvé une forme de, d'agentivité, en fait, par rapport à mon genre, ou si c'est une étape pour m'assumer pleinement en tant qu'homme trans. Et pour le moment, c'est l'énorme point d'interrogation, je ne sais pas où est-ce que ça va me mener. Vraiment, littéralement, je ne sais pas, des fois, ça me paraît clair que ça va être l'un, des fois, ça me paraît clair que ça va être la solution d'eux. Donc, c'est un chemin, tout ça.
Parce que ton parcours de transition, il a commencé il y a combien de temps ?
Évidemment, ça fait très longtemps que j'y réfléchis, en fait, mais j'ai fait un coming out non-binaire l'année dernière, donc début janvier 2023, et par coming out, j'entends que j'ai changé mes pronoms sur mon compte Instagram le plus suivi, mon compte d'astrologie, Z comme Zodiac, et qu'en fait, j'ai un peu laissé faire. C'est-à-dire que j'en ai un petit peu parlé autour de moi, je l'ai dit à mon compagnon de l'époque avec qui j'étais depuis longtemps, j'étais depuis 4 ans avec lui, mais en fait 2 mois après on s'est séparés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ça. En tout cas en surface ça n'a rien à voir. Mais donc du coup, de facto, il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé, je restais dans une expression de genre plutôt femme, voire très femme à certains moments dans les mois qui ont suivi, parce que c'était ce que je connaissais et qu'il y a quand même quelque chose d'amusant. Moi, à titre personnel, j'ai quand même toujours trouvé quelque chose d'amusant dans les jolies robes et les maquillages, etc. Et d'ailleurs, j'ai hâte d'y revenir une fois que ce sera un peu plus marqué, ma masculinité. Voilà, ça a vraiment commencé piano. J'en ai pas parlé à mes parents, mais ils me suivent sur Instagram, donc ils ont vu, mais ils ont pas osé me poser de questions. Donc voilà, ça a été vraiment une espèce d'entre-deux un peu flou. Et en fait, plus ça allait et plus je m'en rendais compte qu'il restait beaucoup de frustration. Et aussi que les personnes autour de moi qui étaient au courant, comme on restait sur... mon pronom, c'était même pas IL, c'était AL, parce que justement, je trouvais qu'IL faisait un peu trop masculin et n'allait pas trop avec mon look encore très femme, etc. Donc, je demandais à elle. Et du coup, je voyais qu'il y avait plein de gens qui continuaient de juste me genrer au féminin et plus généralement, en fait, de me considérer comme une femme cis, en fait. Et donc, la frustration augmentait au fur et à mesure. Et cet été, il y a eu plein de choses qui se sont goupillées dans ma vie, qui se sont un peu accumulées. Et en gros, un des gros éléments catalyseurs, ça a été une rupture amoureuse avec une autre personne transmasque d'ailleurs. Et ce n'était pas anodin, je pense. Je suis tombée très amoureuse de cette personne au printemps dernier. Et au début d'été, au milieu de l'été, j'avais le cœur brisé voilà, suite à cette histoire. Et en fait, ça m'a vraiment forcée à me poser des questions par rapport à moi, où je me suis dit, là, il y a au-delà de la tristesse de la rupture, comme n'importe quelle rupture, où voilà, on est épris de quelqu'un et puis on se rend compte que c'est pas très réciproque et que, bon, voilà, ça arrive. Il y avait quelque chose de profondément identitaire dans ce qui se passait, dans le regard que cette personne posait sur moi, etc., où je me suis dit, c'est plus possible à 33 ans de se sentir aussi peu sûr de soi en ce qui s'agit de son propre genre. Et en fait, là, il faut que tu fasses taire tout et peu importe la réponse, même si ça te terrifie, il faut que tu te confrontes à toi-même. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu te sens? Et vers quoi tu veux aller? Et en fait, c'était la première fois de ma vie que je m'autorisais vraiment à penser à la transition de cette manière-là et à n'écouter que mon désir, en fait, à moi, à le faire émerger, en tout cas. Et dès que je me suis mis dans ce mindset-là, enfin de faire juste émerger ce que moi je voudrais dans un monde idéal où c'est pas dangereux, où il n'y a pas de discrimination, etc. En fait, en quelques semaines, la question elle a été vite répondue, comme dirait l'autre. Voilà, en quelques semaines, en fait, j'étais là, ben je sais que je veux prendre un rendez-vous pour potentiellement commencer la testostérone. J'aimerais bien changer de prénom, mais par où je commence, comment je choisis, qu'est-ce que je fais. Enfin voilà, c'était très flou, mais par contre le désir, il est devenu très clair, assez un peu d'un seul coup. Mais c'est parce que j'étais un fruit mûre, vraiment archi mûre, en fait. Je pense que c'était vraiment ça. Mais ça a été un peu bizarre pour beaucoup de mes proches, parce que en effet, j'avais pas trop joué de ma masculinité pendant ma vie, quoi. Donc, c'est un peu compliqué de s'adapter, notamment pour ma famille.
Ouais, et puis du coup, si je comprends bien, c'est un chemin qui prend du temps, parce qu'en plus de ça, au début, tu parlais de transition médicale, transition sociale. Enfin, du coup, il y a plein d'étapes à franchir et elles se franchissent pas du jour au lendemain, quoi.
Complètement. Et puis, il y a des vraies réflexions sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut pas faire. Rappelons-le, hein, toutes les transitions sont légitimes. On n'est pas obligé de faire une transition médicale pour être trans. On est dans le sens, on n'est pas obligé de prendre des hormones, on n'est pas obligé de faire quelque opération que ce soit, on n'est pas non plus obligé de changer son prénom, on n'est pas obligé de changer tous ses pronoms, on n'est pas obligé de faire des changements administratifs. En fait, on fait ce qu'on veut, et ça peut être un seul élément de tout ça, ça peut en être une dizaine, ça peut en être plus, moins. Enfin, là-dessus, les normes de genre, elles sont tellement arbitraires que chacun, chacune doit faire selon ses propres besoins et urgences et priorités, quoi. Et donc, c'est vrai que ce qui pose énormément de... Enfin, ça prend du temps, en fait, et de l'énergie même de se poser ces questions-là, de se poser toutes ces questions-là en se disant, est-ce que ça me fait envie, est-ce que ça me fait pas envie, pourquoi, est-ce que là, c'est plus de la peur qu'autre chose, ou c'est vraiment un vrai désir de structurer son identité comme ça. Voilà, ça prend beaucoup d'énergie.
Ouais, et puis en plus d'une remise en question, et puis en tout cas, une évolution personnelle, je trouve que ça permet aussi de remettre en question la société telle qu'elle est établie, avec les normes de genre. Il y a aussi un côté politique dans une transition, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses.
C'est éminemment politique. Et encore, moi, je dis ça, j'ai conscience d'être blanc, privilégié, j'habite à Paris. Bon, je veux dire, j'ai un parcours économique qui est assez particulier. J'ai été précaire pendant des années, vraiment précaire, enfin, sous le seuil de la pauvreté à un moment, etc. Mais malgré tout, là-dedans, j'ai pas des activités de prolétaire. Enfin, voilà, j'ai mon activité d'astrologue, j'ai mon activité d'auteur. Donc, il y a une forme de privilège, en fait, presque bourgeois qui vient avec ça, même si je roule pas sur l'or. Et puis, en plus, maintenant, je suis quand même sortie de cette précarité assez extrême qui était la mienne il y a quelques années. Donc, voilà, je suis quand même particulièrement privilégiée et armée dans ce parcours-là. Et même pour moi, ça reste évidemment extrêmement politique. Et cette fameuse phrase « l'intime est politique », j'en étais extrêmement conscient ces dernières années, mais là, ça donne une couche supplémentaire, parce que c'est tellement de l'interrelationnel, la transidentité, en fait. C'est, évidemment, il y a de soi à soi, ça, c'est clair, et c'est déjà un énorme boulot de comprendre les différentes parties de soi. Mais c'est évidemment de l'interrelationnel en permanence avec tout le monde, en fait, avec ses proches, avec ses collègues, avec les gens dans la rue, avec les commerçants et commerçantes, avec les gens de l'administration, avec une potentielle clientèle, une audience. Enfin, on passe notre temps à négocier, en fait. Et c'est là où la politique, elle se met, en effet, elle s'infiltre, quoi, dans les dialogues, dans les discussions qu'on peut avoir. C'est assez impressionnant.
Ouais, ouais, c'est clair. Puis ça permet à l'autre en face de toi d'aller s'interroger sur des choses dont il a jamais questionné, finalement. Quand on voit toutes les normes qui nous paraissent aujourd'hui, je sais pas moi, mais à un moment, tu vois, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans un magasin de déco. Et les personnes, quand elles faisaient des cadeaux, c'était « je veux un emballage bleu pour les garçons et rose pour les filles ». Aujourd'hui, évidemment, c'est de plus en plus remis en question, mais pour moi, c'est des petites choses comme ça qui font qu'au fur et à mesure, t'évolues, tu te remets en question, et puis tu peux un peu regarder les choses de façon moins binaire, en fait.
Bien sûr. Ça me fait penser à quelque chose que j'entendais La Briochée, donc une des drag queens qui a participé à la saison 1 de Drag Race France, qui est une femme trans, et je l'entendais dire dans un podcast... sur les transidentités d'ailleurs, elle disait En fait, il faut quand même se rendre compte que la plupart d'entre nous, dans un monde capitaliste, etc., on est hyper coincé sur plein de choses. Et donc, en fait, quand il y a des personnes qui, par exemple, voilà, arrivent à un stade de leur vie où finalement, c'est des personnes qui ne se sont pas trop posées de questions, qui se sont mariées plus parce qu'il fallait, même s'il y avait de l'amour, etc. Mais enfin bon, viteuf, quoi. Voilà, qui n'ont pas trop réfléchi. Et puis ensuite, qu'on fait des enfants, puis qu'on fait un prêt pour être propriétaire parce que vaut mieux ça dans le monde dans lequel on vit et tout. Une forme de liberté. Alors bien sûr, hein, la transidentité, elle s'impose à nous. Et après, on essaie de composer avec. Mais on ne choisit pas d'être trans, bien sûr. Mais par contre, on peut choisir parfois, dans la mesure du possible, d'acter dessus et de la vivre. Et donc, en effet, cette liberté de bouger sur cet énorme échiquier du genre, en fait, les gens, ça les heurte. Même que les personnes soient en fait trans ou cis ou finalement en questionnement ou soit juste titillé sur les questions de genre tout en étant cis. Enfin, ça, je pense que ça perturbe cette liberté qu'incarne complètement malgré elle, et en étant très prisonnière de plein de choses par ailleurs, les personnes trans. Ça dérange les gens, en fait. J'étais assez d'accord avec ça, sur le fait que c'était pour ça que ça cristallisait sûrement autant de choses. Peut-être même à l'heure actuelle, ça cristallise encore davantage de choses dans certains pays que l'homosexualité, le lesbianisme, etc. Et qu'il y a une espèce de revendication qui n'est même pas là de base, mais qui se fait de facto, en fait.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis après, il y a tellement peu de représentations, ou alors les représentations qu'on en a, elles ne sont pas incroyables. Enfin, c'est comme le milieu du drag. Aujourd'hui, avec l'émission Drag Race, c'est trop bien et enfin, ça redore vraiment l'image qu'on a des drag queens, plus que les drag kings d'ailleurs. Mais enfin, c'est trop bien et heureusement que ça évolue. Je pense qu'il y a une certaine époque, enfin, moi je sais quand j'étais petite et jusqu'à il y a très peu de temps, la question des transidentités et des personnes transgenres, c'était inexistant dans ma possibilité, enfin, de ce que, enfin, je pouvais pas l'imaginer en fait parce que j'avais jamais vu de représentation et que du coup bah c'est trop bien que, enfin, de plus en plus il puisse y avoir des personnes qui puissent interroger l'autre aussi, quoi.
Oui.
Tu nous as parlé que tu étais astrologue et auteur. Et juste avant qu'on lance l'enregistrement du podcast, je te disais que je ne voulais pas parler uniquement de transidentité parce que je pense que c'est une partie de toi, mais ça ne te définit pas entièrement sur tout ce que tu fais. Et en fait, c'est hyper drôle parce que j'ai l'impression qu'on tourne le podcast à l'envers. Genre...
Écoute, comme ça, il y avait l'éléphant dans la pièce, on en a parlé tout de suite. Maintenant, il va se décaler un peu, on va parler d'autre chose.
Ouais, c'est hyper drôle. D'habitude, la première question que je pose à mes invités, c'est de se présenter et de dire qui ils ou elles sont et ce qu'elles font, en tout cas de dire ce qu'elles ont envie de dire avec leurs propres mots. Donc, au milieu de l'épisode, je... Théodore.
Donc, je m'appelle Théodore, j'ai 34 ans et en effet, je fais plein de choses puisque donc, je suis astrologue depuis plusieurs années. Donc, je suis passionnée d'astrologie depuis l'enfance et c'est devenu une activité professionnelle par hasard, dans le sens où c'était pas du tout mon agenda que de développer une pratique professionnelle et pécuniaire par rapport à ça, et ça s'est un petit peu imposé aussi puisque donc j'avais lancé un podcast qui était vraiment fait pour m'amuser qui s'appelle Z comme Zodiac et ça a eu du succès à mon grand plaisir, ça a fait caisse de résonance je suppose, et à partir de là j'ai été sollicitée à la fois par des maisons d'édition pour écrire des livres, donc c'est comme ça que je suis devenue auteure officiellement, on va dire. Et puis il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont sollicitée pour faire des lectures de thèmes, donc c'est aussi des choses que au début je faisais un peu gratuitement, puis ensuite à un prix bien au-delà d'une vraie rémunération correcte par rapport à tout le travail engagé. Et puis maintenant, j'ai un petit peu mon rythme de croisière. J'ai aussi écrit des piges pour Vanity Fair, j'ai écrit des piges pour Elle. Et Et j'ai créé d'autres podcasts à côté. Alors, c'est des podcasts complètement indépendants, hein, qui ne sont pas rémunérés. Je n'ai pas mis de pub dessus ou quoi que ce soit, ni sur Z comme Zodiac, ni sur donc d'autres podcasts comme « C'est quoi ton signe ?» que j'ai fait avec Marion Lagan pendant le confinement, où on interviewait des personnalités à travers leur thème astral. Et j'ai également créé le podcast Kitchen Witch avec Héloïse Méhard, qui est une de mes meilleures amies, et mon associée. Puisqu'à côté de ça, donc en plus d'être astrologue et auteur, donc je tiens aussi un restaurant salon de thé vegan à Paris qui s'appelle le Café Contresort, et donc je le tiens avec Héloïse, et donc on a un podcast de magie des fourneaux qui s'appelle Kitchen Witch, et on a également publié des livres Kitchen Witch et Potions, des livres de recettes, mais on parle aussi un petit peu de magie des fourneaux.
J'adore, tu fais mille trucs, c'est génial.
Je fais beaucoup de choses, c'est vrai.
D'ailleurs, il me semble, Laura m'avait dit que tu as le CAP pâtissier aussi.
Oui, oui, tout à fait. En fait, j'ai donc pour le petit parcours, donc j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 94, et juste après avoir passé mon bac L, je suis rentrée directement à Sciences Po. Et j'y ai passé 5 ans et j'ai détesté cette expérience. Mais franchement, ça pourrait faire l'objet d'un podcast de 2 heures sur « J'ai été à Sciences Po, pourquoi j'ai pas aimé ?» Mais j'y suis quand même restée parce que quand on est de classe moyenne et qu'on entre à Sciences Po, bah, on crache pas dans la soupe et on termine. À une époque où la crise financière de 2008 vient de passer, où tout le monde dit « voilà, là, t'as de la chance, c'est bon d'être entré dans la voie royale, donc tu vas pas partir parce que... Oh, ça va, quoi, tu te sens mal, t'es harcelé par un boys club, c'est pas grave, continue, voilà, continue, prends sur toi. Et donc, j'ai terminé, j'ai fait un master affaires européennes avec plutôt dans l'idée, en effet, de pas aller dans le privé, en fait, dans un premier temps. Donc, je pensais passer les concours et en même temps, je savais que j'allais m'ennuyer profondément. Donc, finalement, j'ai atterri en stage de fin d'études à RFI France 24 à l'époque, où j'ai été attachée de presse. Donc, finalement, j'ai rejoint le service de com et d'une entreprise qui n'était pas, fonction publique, mais qui était service public. Donc, c'était... Voilà, je me suis dit, c'est ça va, je ne vends pas trop mon âme. Mais en fait, au bout d'un an, pareil, je m'ennuyais profondément, quoi. Je sentais que ce genre de parcours, ça n'allait pas être pour moi. Et donc, je n'ai pas renouvelé mon contrat et je suis partie passer un CAP pâtisserie puisque j'avais encore l'âge en fait, d'être apprentie à l'époque. J'avais que 22 ans. Parce qu'en fait, quand tu rentres à Sciences Po à 17 ans, que tu fais le parcours, tu commences à travailler direct après ton stage de fin d'études, tu es un bébé. Tu es extrêmement jeune quand tu commences ta vie active. Donc, j'avais encore l'âge pour être apprentie et je suis partie passer mon CAP pâtisserie en apprentissage pendant 1 an. Et puis ensuite, j'ai été pâtissier commis et puis un peu montée comme ça, voilà, sur plusieurs jobs avant d'ouvrir mon restaurant.
Ok, tain, mais trop bien. Du coup, tu disais tout à l'heure que, en fait, t'es arrivée astrologue par hasard.
Oui.
Et en fait, à un moment, tu nous dis que ben, t'as connu l'extrême précarité et tout ça. Comment ce par hasard arrive et comment les choses tournent à ton avantage en fait pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui?
Ouais, bah en fait, en plus, c'est lié à des histoires de sous au final parce que j'ouvre un petit restaurant qui s'appelait le Politique Café. Dans le 18e arrondissement à Paris et qui était justement un lieu qui était censé à la fois accueillir un restaurant, quoi, enfin voilà, des repas, des apéros, des choses comme ça, mais avec aussi un accueil des associations, notamment de quartier. Donc l'idée c'était, on n'est pas partisans, bon, dans ce qu'on faisait, dans l'essence, clairement, c'était un truc de gauchiste, mais voilà, il n'y avait pas d'affiliation, quoi, un parti ou en particulier, et c'était plutôt dans l'idée d'aider, moi, ce que j'appelle la vraie politique, la vie de la ville, littéralement, et en fait, ce café, il ne marchait pas, et comme je l'ai dit, je ne me plains pas, j'ai eu une enfance... qui n'était pas non plus dramatique du tout sur le plan financier. Mais moi, mes parents, ils n'ont pas pu, ils m'ont dépanné, et c'est déjà génial, quoi, mais de quelques milliers d'euros au début, mais c'était tout, en fait. Et sur les pour avoir un restaurant, en fait, il faut emprunter des dizaines de milliers d'euros. Et donc, ce n'était pas les 5000 euros de mes parents qu'ils ont eu la gentillesse de me donner de leur épargne voilà, au départ. Ce n'était absolument pas suffisant pour ouvrir quoi que ce soit. Donc, j'ai dû trouver des gens qui avaient de l'argent, qui se sont associés avec moi. J'ai emprunté, bien sûr. J'ai fait un prêt qui n'est pas, maintenant je m'en rends compte par rapport à l'échelle de plein de gens qui sont pas, qui n'est pas énorme, ce n'est pas un énorme prêt, mais en fait, moi, ça fait 7 ans que je rembourse et ce n'est toujours pas terminé. Donc, voilà, on se sait. et en plus, c'est juste, en plus, c'est un prêt qui était fait bon, pour financer des travaux, mais enfin, moi, je n'ai pas les murs hein, du restaurant. C'est-à-dire qu'en plus, tu payes en fait pour ce qu'on appelle le fonds de commerce, mais t'es locataire en fait. Tu payes un loyer tous les mois. Donc, ça fait énormément de charges et une grosse somme empruntée pour quelque chose qui, à la fin, ne t'appartient même pas, comme au moins tu peux avoir ton petit studio à la fin de ton prêt. Et donc, voilà, le restaurant ne décollait pas, mais c'était trop tard. J'avais un prêt à rembourser, etc. Donc, quand j'ai ouvert le restaurant, on était une petite équipe de 4. Au bout de 6 mois, on n'était plus que 2. Et puis, au bout d'un an, il n'y avait que moi qui faisais absolument tout. C'est-à-dire, non seulement, évidemment, tout le boulot de chef d'entreprise que j'ai, de faire les courses, faire l'administratif, faire la compta, gérer les stocks, etc. Et puis, à côté de ça, je faisais la cuisine. Et puis, à côté de ça, j'accueillais les clients, je faisais le service, je faisais toute la vaisselle, etc. Je faisais tout. J'étais littéralement au four et au moulin. Et ça décollait pas. Et en fait, il y a eu un moment où j'étais là, en termes de santé mentale, c'était très border aussi à ce moment-là. Et j'étais là, il me faut une soupape de décompression, en fait, parce que j'avais vraiment pas d'argent du tout, hein, vraiment, vraiment pas. Donc, j'avais aussi très peu de loisirs. Donc, à ce moment-là, voilà, j'allais faire du sport dans le stade gratuit derrière chez moi, mais c'était tout en fait, et c'était une vraie galère, enfin tous les cinoches, les trucs comme ça et tout, enfin c'est impossible, je pouvais absolument plus rien faire, le moindre euro était compté. Donc j'étais là, il me faut une soupape de décompression en fait, il me faut un espace mental où là c'est juste du fun, parce que sinon je vais vraiment vraiment sombrer. J'ai de l'énergie à revendre, mais là je vais ouais, ça va pas être possible. Et donc, en fait, j'ai lancé le podcast de Z comme Zodiac dans cet esprit-là. Je le faisais la nuit, parce que je travaillais énormément, en fait, vu que je tenais un petit commerce seul. Et donc, je rognais sur mes heures de sommeil pour écrire, m'enregistrer, monter. Et au début, c'était genre tellement fun parce que c'était aussi nouveau, etc. Donc, c'était juste très drôle à faire. Et j'étais là vraiment, si ça amuse une personne en plus de moi, j'ai tout gagné. Pas de pression avec ce projet-là. C'est vraiment pour le fun. Et en fait, comme je disais, quand les propositions ont commencé à tomber, qu'il y avait aussi plein de gens qui disaient « mais je veux que ce soit toi qui lise mon thème parce que j'aime ton approche, j'aime tes références, j'aime comment tu expliques, j'aime comment tu racontes, donc je veux pas non plus n'importe quel astrologue, je veux que ce soit toi ». Ça, c'est très important en astrologie de choisir un ou une astrologue avec qui on sent qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, c'était le cas aussi pour les personnes qui accrochaient avec ce que je faisais. Et au début, donc voilà, je disais non, parce que j'étais là, je ne vais pas capitaliser sur l'astrologie, c'est quelque chose qui est sacré pour moi, en fait, donc c'est pas possible. Et en fait, tout s'est goupillé de façon à ce que... Alors voilà, si on est mystique comme moi, on se dit il y a quelque chose autour, quoi. Enfin, vraiment, tous les dieux, les déesses, les divinités, tout ce que vous voulez, l'univers, l'ange aiguilleur du ciel, appelez ça comme vous voulez. Ou alors sinon, on va se dire, bah oui, ça paraît... Si on est plus cartésien que ça, on va se dire, oui, c'est juste logique. Il y a un moment, t'as pas d'argent, tu galères, tu te payes toujours pas, on est en train de te dire mais fais ce que tu aimes et nous on est prêt à payer pour ça, il y a un moment tu cèdes en fait. Voilà. Et à un moment tu te dis c'est peut-être c'est peut-être un autre embranchement qui va me sauver la vie à ce moment-là en fait. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait quoi. Je sais pas si... J'espère que ça répond à ta question, parce que c'est très long comme histoire, donc j'espère que ça répond à ton questionnement sur comment ça s'est goupillé. Mais ouais, j'ai vraiment eu l'impression que justement le puzzle il se faisait au fur et à mesure. Et une de mes devises favorites dans la vie, c'est nécessité et mère de créativité. Et c'est sûr que toute cette partie-là de ma vie, elle illustre ça à la perfection, quoi.
Ouais, ça résonne beaucoup avec certains moments de mon parcours aussi. Est-ce que tu penses que tu avais la croyance qu'il faut travailler dur pour gagner dur, du coup ?
Ah oui, ça, je pense que je l'ai encore de toute façon. Et puis après, c'est une croyance, mais il y a aussi une partie de réalité là-dedans, en fait. C'est-à-dire, encore une fois, enfin, je pense que quand on arrive avec quand même un petit héritage derrière, voire avoir des parents qui sont bien aisés et qui peuvent voilà, donner de l'argent, etc. Enfin, je pense que la situation, elle n'est pas du tout la même et que c'est beaucoup plus facile, par exemple, d'abandonner un commerce. Voilà, bon, on a joué, on a perdu, c'est pas grave. Voilà, le dossier ne retiendra pas, on rembourse la banque avec l'argent des parents. Voilà, ce genre de choses. Enfin, et ça y est, c'est terminé. Mais moi, en fait, il n'y avait personne derrière. C'est-à-dire que si je. Là, j'en ai plus pour longtemps. Maintenant, le plus gros a été remboursé, mais j'en ai encore pour 1 an et demi. Et en fait, le truc, c'est que si je remboursais pas la banque, après, moi, je suis coincée. Et mes associés, d'ailleurs, la banque et mes associés. Ensuite, il y a un gros tampon rouge qui arrive dans mon dossier et je peux plus jamais emprunter quoi que ce soit. Même pour justement un moment, un prêt immobilier pour moi, quelque chose comme ça, c'est fini, quoi. Et en fait, le problème, c'est que je sais que le salariat, pour moi, c'est très compliqué. Il y a vraiment deux prisons, il y a l'entrepreneuriat et le salariat, et entre les deux, je fais le choix de l'entrepreneuriat. Donc, ça me saoule de me dire que je vais être obligée de faire ça parce que je suis quelqu'un qui, en effet, a plein de projets, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Donc, le fait d'être pieds et mains liés parce que à un moment, j'ai lâché, c'est aussi un privilège, quoi. Je pense pouvoir des fois abandonner certaines activités, etc. Et puis après, par contre, il y a aussi un stade de croyance. En effet, je suis d'accord, qu'il y a des fois, on se met en tête que là, faut que ce soit dur parce que sinon, on ne mérite pas sa croûte, etc. Et ça, c'est des choses sur lesquelles j'évolue quand même de plus en plus. Et aussi parce que justement, je vois plein de gens qui ré... enfin, plein, non, mais je vois des gens qui réussissent sans forcément se mettre la rate au courbouillon à côté, quoi. Mais bon, généralement, je vois que ces personnes-là, comme je disais, sont assez aidées financièrement aussi. Et des fois, ne se rendent même pas compte. Mes leçons.
Ouais, c'est clair. Mais merci de resituer parce qu'en effet, c'est pas parce que tu as la croyance que. Enfin, il faut travailler dur pour gagner dur que, en fait, derrière, faut aussi penser que l'argent c'est facile et que la vie, enfin, tout est facile, quoi.
C'est ça.
Je suis d'accord avec toi. Je sais tellement plus par quoi commencer. Si. En fait, Ce qui m'interpelle là, c'est que tu dis que ben, du coup, tu rembourses encore des dettes de ce café politique là, c'est ça?
Tout à fait, parce qu'en fait, on a créé, du coup, après le premier confinement, comme j'étais coincée avec ce resto-là, mais que j'avais plus envie d'avoir ce concept-là, je me suis dit, on va garder le même lieu et on va le transformer en café contresort. Et
Ok.
donc, le café contresort, c'est le café que je tiens encore actuellement, donc avec mon amie Héloïse, donc ce fameux restaurant salon de thé vegan autour de l'archétype de la sorcière et du sorcier. Et donc, en fait, on a construit ça sur les cendres du Politicafé. Donc je continue de rembourser le prêt contracté au moment du Politicafé.
Ouais, parce que du coup, je me demandais, mais qu'est-ce qui fait que, en fait, t'as envie de re-signer pour un autre projet de café
Non,
après
c'est le même
une
café.
expérience? Non, parce que clairement, enfin, je sais pas, j'essaye de me mettre à ta place et me dire, mais moi, jamais je recommencerai un truc pareil si le premier, genre, t'as une mauvaise expérience, quoi.
Ah mais complètement. Mais d'ailleurs, Héloïse, elle avait ouvert un salon de thé à Montpellier qui s'appelait le Café Noisette quelques années auparavant. Et vraiment, ça avait l'air super. Ça, je n'ai aucun doute. Mais c'est tellement compliqué d'avoir un petit commerce en France, vraiment. Donc elle, justement, elle a été obligée, contrainte et forcée de mettre la clé sous la porte et de continuer ensuite, pendant plusieurs années, de rembourser un prêt pour un commerce qu'elle n'avait même plus, quoi. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on a tout de suite accroché parce qu'on avait des parcours, comme j'appelle, en natation synchronisée, quoi. On avait vraiment plein, plein de points communs sur nos parcours pourtant atypiques, comme qui dirait. Et en fait, elle m'avait dit, mais moi, plus jamais j'entreprends, quoi. Plus jamais j'entreprends. Et plus jamais, voilà, je débarque dans un truc qui est encore tout neuf, etc. Et donc, je m'étais dit, jamais je vais lui demander j'adorerais, mais jamais je vais lui demander de venir travailler avec moi. Et en fait, pendant le premier confinement, je lui ai envoyé une tonne de messages WhatsApp à un moment en lui disant « Écoute, je sais que tu vas dire non, c'est pas grave si tu dis non, mais voilà, est-ce que t'auras envie de venir et tout ?» mais par contre, évidemment, elle a pas pu remettre d'argent ou quoi que ce soit, mais on a une telle collaboration que, enfin, c'est 50-50 pour nous, enfin, le Café Contresort, c'est notre bébé en commun. Mais voilà, j'ai vu son état et j'ai vu ce que ça allait être en fait, ce que ça allait être si je mettais la clé sous la porte justement. Et moi, je la trouve incroyablement. Elle a pas eu le choix en effet, hein, mais je veux dire, ça a été incroyablement courageux. Encore une fois, il y avait pas le choix, mais continuer de rembourser notamment un prêt d'un commerce que tu n'as plus. Je sais pas si les gens réalisent, enfin, la violence en fait psychologique du truc, quoi. Alors que t'as déjà tout perdu, que même tous les petits trucs que t'avais achetés pour ton café, etc. Bah, il a fallu les laisser dans la liquidation. Que t'es dégoûté parce que tu sais qu'il aurait suffi de pas grand chose pour que ça soit un vrai succès. Mais que là, c'est une accumulation de petits trucs. Que évidemment, toute ta clientèle t'adorait, sauf que les gens ne venaient pas assez nombreuses et en ne dépensant pas assez. Et donc tu mets la clé sous la porte. Tu continues de payer pour ça, mais c'est mon cauchemar absolu. C'est mon cauchemar. Mmh. Mais du coup, j'ai énormément d'admiration pour Héloïse pour ça.
La folie de l'entrepreneuriat.
Ah ouais.
Ça me fait penser. Je fais partie. Enfin, j'ai rejoint récemment, le mois dernier, un groupe d'entrepreneurs où justement, c'est des personnes avec des valeurs de gauche, bien féministes et tout ça. Et en fait, on a fait un atelier. Et la question, c'était, enfin la première question de l'atelier, c'était qu'est-ce qui vous a poussé à être indépendant, indépendante ? Et en fait, tout le monde quasiment a répondu que, en fait, c'était plus, enfin, des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat par inadéquation face au système du salariat. Et c'était pas nécessairement un choix en mode j'ai toujours rêvé d'être à mon compte.
Oui, non.
Juste, t'as pas le choix, enfin, c'est juste le choix en face de toi, il est impossible. Enfin, personnellement, j'ai jamais été salariée, j'ai juste fait un stage pareil pendant les écoles de commerce que j'ai faites, mais jamais je m'envisagerais être salariée dans une boîte. Et pareil que toi, j'étais endettée, je suis encore endettée et tout ça. Et genre, il y a ce truc qui me pousse à me dire « Non mais vas-y, tu continues là, c'est dur, tu fais des trucs. » Mais enfin, personnellement, je sais qu'il y a ma liberté, l'entrepreneuriat me permet d'avoir la liberté que j'ai envie. Pour autant, c'est plus par opposition à un modèle qui ne correspond pas, quoi.
Mais complètement. Moi, que ce soit dans la com ou ensuite en tant que pâtissier, être salarié, alors je vais pas dire, j'étais pas nulle, mais en fait à chaque fois j'étais là, mais je sais que j'ai du potentiel en fait et que là c'est complètement étouffé et que des fois peut même y avoir, il y avait certains jobs où ça se passait très bien et certains jobs où ça se passait moins bien, comme pour tout le monde. Mais du coup les jobs où ça se passait moins bien, c'est parce qu'en effet on étouffait. Tout ce qui maintenant je sais qui fait vraiment ma force en fait, c'est que j'ai une vision d'ensemble. J'essaie de faire des choix plus qui me semblent en tout cas logiques, enfin qui vont avec ma logique, etc. Et donc le côté bon élève en fait, je le faisais, mais du coup j'étais pas bon non plus. Et en fait je pense que souvent d'ailleurs mes supérieurs voyaient bien que j'étais, alors désolée, je vais me lancer des fleurs, mais j'espère que les gens comprendront, mais que j'étais malin. En fait, mais derrière, j'avais du mal à m'adapter en fait à leurs règles, et c'est pour ça que je pense que ça crée quelque chose d'un peu déceptif en fait pour les jobs où ça s'est mal passé. De, on voit bien que ça va à toute vitesse dans ta tête, que ça fuse et tout, et pourtant, voilà, il y a un truc qui va pas dans les rythmes dans le rythme de travail. Et moi, j'étais hyper frustrée, quoi. Souvent, je rentrais, et je me sens nulle en fait. J'ai l'impression de pas donner le quart de ce que je pourrais. Et en effet, maintenant que je suis libre de m'organiser comme je le veux, on voit la différence. Et c'est vrai que, alors, tout n'est pas qualitatif tout le temps, etc. Mais ne serait-ce qu'avec tout ce que je fais, moi-même, je me rends bien compte, en fait, quand les gens disent « Oh, waouh, enfin, tu fais plein de choses, comment est-ce que tu arrives à faire tout ça en même temps ?» Honnêtement, je ne sais pas trop, je n'ai pas vraiment de méthode. Mais en effet, je vois bien qu'il y a un côté un peu... un peu impressionnant, quoi, de se dire, mais comment la personne fait tout ça à la fois? Donc, voilà, dans la vraie vie, moi, j'ai juste l'impression de conduire un volant sans permis et en sachant pas où sont les freins, hein. Voilà, je ne maîtrise rien, je fais beaucoup de choses à l'instinct. Mais je vois bien qu'il y a quand même plein de choses qui sont accomplies rapidement, qui sont accomplies efficacement. Et ça, c'est juste parce que j'ai ma liberté. Et en fait, et en plus de ça, parce que souvent, c'est les personnes neuroatypiques aussi, enfin voilà, qui se retrouvent confrontées face, comme tu disais, à ce non-choix, en fait, de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose où, même pour ma santé mentale, et ça, je me le dis à chaque fois que, tu sais, j'organise vraiment ma journée comme je veux. C'est-à-dire que des fois, je sais pas, je suis au resto, il y a des gens, mais là, je suis en mode, en fait, je sais que c'est calme et je peux, par exemple, aller à la poste chercher mon colis. Un truc aussi bête que ça, mais aussi bête que ça. Mais ça, je me rappelle qu'en tant que salarié, ça me faisait péter un câble, quoi, de dire, en fait, je suis obligée de rester au bureau ou au labo. Et là, en fait, on pourrait s'organiser différemment de manière à ce que je prenne juste un quart d'heure pour aller chercher tel colis, tel truc et tout. Et ouais, c'est des détails aussi bêtes qui font qu'en termes de santé mentale, ça me minait, alors que maintenant, de pouvoir le faire, et en effet, voilà, et c'est logique, et ça gêne personne, et c'est fait, et on le croche de la to-do list, etc. Enfin, voilà, je te vois acquiescer, donc je vois que ça fait écho.
Mais franchement, ça me fait trop penser à... Enfin, je pense que j'ai toujours été entrepreneur et du coup, il y a des choses que je voyais pas nécessairement comme étant justement cette liberté incroyable. Et aujourd'hui, je me force vraiment à chaque moment de me dire, mais j'ai vraiment de la chance de pouvoir faire ce que je fais là et tout ça. Et tu vois, bah, on parlait muscu au tout début et moi, mes entraînements, je les fais le matin.
Ouais.
Et je me retrouve à 10h ou 11h avec, en fait, la plupart, enfin déjà, il y a quasiment personne, mais la plupart des personnes, c'est des personnes retraitées, je pense. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est tellement une chance de pouvoir venir à un créneau où il n'y a pas trop de monde, où c'est pas blindé à 18-19h quand tout le monde sort du boulot et qui va à la salle de sport, quoi. Et je trouve qu'en ça, ben, c'est... Enfin, les joies de pouvoir être à son compte. Et je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir l'observer et de se réjouir de ça, quoi.
Absolument. Et après, ce que les gens, par contre, des fois fantasment par rapport à ça quand ils ne connaissent pas la réalité, c'est ce côté... Bah voilà, même la semaine dernière, nous, on est ouvert quasiment tout le temps au Café Contresort. On ferme 2 semaines à Noël et 3-4 semaines en août. Et c'est tout. C'est les seules vacances qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas le choix, voilà, faut un peu de chiffre d'affaires pour pouvoir payer les charges. Et en fait, puis même pas que les charges, mais le coût global de la vie d'un commerce, quoi. Et en fait, la semaine dernière, exceptionnellement, bon, on se retrouvait que à deux avec Héloïse. Justement, il n'y avait plus personne de l'équipe à ce moment-là. Tout le monde était absent pour une raison ou pour une autre. Héloïse était malade. Et du coup, à un moment, j'ai fait, non, mais en fait, tu... te mets pas la rate au courbouillon, demain on est fermé, c'est tout, et on va pas se faire engueuler, enfin c'est nous qui prenons la décision, donc voilà, et donc du coup j'ai fait mon petit poste et c'était réglé en fait, et même ça aussi, tu vois, je me suis dit c'est un luxe incroyable, voilà, de pouvoir dire c'est bon, en fait on va pas, stop, là ça va trop loin, on va pas pouvoir ouvrir, on arrête. Et en même temps, en même temps que je me disais c'est génial de pouvoir faire ça, en même temps j'étais là, t'es sur le pont tout le reste de l'année. En fait, et tu sais, t'es ton propre patron ou ta propre patronne, donc en fait, tu te surveilles en permanence, en tout cas, si t'as envie d'avoir ton commerce qui... Donc en fait, tu bosses, mais tellement, 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 et puis, enfin, moi, par exemple, avec mon statut, j'ai pas de congé maladie, j'ai pas de congé maternité, enfin, il y a rien du tout, donc en fait, et ça m'a posé problème dans le passé, enfin, il y a eu un moment, tout à l'heure, je parlais de quand ma santé mentale, elle était border, enfin, je suis allée voir 2 fois à un moment la médecin qui était là, mais il faut que vous vous arrêtiez 3 semaines, 1 mois, en fait. Enfin, là, vous êtes quasiment en burn-out, si ce n'est pas déjà le cas. Et j'étais là, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, si je vous dis oui, j'adorerais me reposer. Si je vous dis oui, le truc, c'est que ça veut dire que je mets la clé sous la porte. Parce qu'en fait, ça veut dire que je ne peux pas payer mes charges à la fin du mois. Ça veut dire que je ne peux plus payer mes fournisseurs. Je suis déclarée en liquidation judiciaire et c'est basta. Donc, en fait, je vais vous dire oui. Sur le coup, ça va me soulager, mais moi, ça veut dire que ma vie, en fait, il y a une étape là qui se termine. C'est pas juste, entre guillemets, ce qui est déjà énorme. Quand on se dit, oh là là, je vais pas bien, je vais prendre un mois d'arrêt, c'est déjà énorme pour quelqu'un, quoi, de faire face à cette réalité de sa santé à ce moment-là, de se dire qu'on en est arrivé là, au stade que là, faut prendre un mois. Mais moi, c'était, les enjeux, ils étaient gigantesques, en fait. Donc, j'étais là, bah, voilà, j'entends ce que vous dites. je vais essayer de lever un tout petit peu le pied sur ce qui n'est pas urgentissime. Mais pour le reste, bienvenue dans ma prison, quoi. Enfin, c'est, il n'y a pas le choix. Donc ça, c'est quelque chose, je pense aussi qu'il faut dire aux gens, parce que les gens fantasment énormément l'entrepreneuriat.
Ouais, ouais, non, mais t'as totalement raison. Enfin, et heureusement que de plus en plus, on commence à en parler de la santé mentale des indépendants ouais. globalement. Enfin, c'est quelque chose de... Enfin, il y a encore tellement d'injustices aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, même par rapport, tu vois, genre, je sais pas, si t'es président de ta société, que tu te payes, t'auras jamais le droit au chômage. Enfin, il y a tellement de trucs. Enfin, bref, on pourrait en parler pendant des heures, tu vois, Mais ouais, c'est clair que bah, chaque système a ses avantages et ses inconvénients, quoi.
Exactement.
Bon, allez, je te pose une dernière question quand même par rapport à tous ces projets. Moi, ce qui vraiment... Enfin, tu disais que tu n'avais pas vraiment la réponse, mais par rapport à comment tu modules un peu tous tes projets, comment tu t'y retrouves pour ne pas trop te perdre, aujourd'hui, est-ce que tu as... certaines règles que tu t'appliques ou justement une semaine type avec des gros guillemets, quoi. Mais est-ce que tu aurais des conseils ou des choses à partager justement quand tu es face à une personne qui justement a plusieurs projets pour éviter de se perdre et de se disperser?
Alors moi, ce que j'essaie de faire, mais il faut garder en tête que ça ne marchera pas avec tout le monde, selon aussi les neuroatypies de chacun, chacune. Quand même, la deadline, c'est quand même quelque chose, je pense, qui est... Bah, ça nous ramène au collège-lycée, quoi. Enfin, voilà, fallait, au bout d'un moment, tu rends ton devoir. Il y a un moment, tu pourras pas tricher, tu pourras pas gratter auprès de tes profs et tout. Bon, après, moi, j'ai quand même un côté assez discipliné, en vrai, donc j'ai pas trop de galère avec ça. Mais c'est vrai que les deadlines, ça m'aide. Et en fait, ça m'aide, du coup, à prioriser quand même, des choses. Mais je sais que... J'ai pas le TDAH qui est le plus relou avec ça. Enfin voilà, mon amie associée, Héloïse, c'est la personne la plus TDAH de la Terre. Enfin, ça fait rire vraiment tout le monde. Toutes les personnes qui connaissent Héloïse sont là. Voilà, l'incarnation du trouble de l'attention, c'est Héloïse. Et donc je le vois au quotidien, je sais à quel point, enfin, moi je suis pas sur du 24 heures avant, je suis en train d'écrire mon truc. Enfin, voilà, j'arrive quand même à anticiper un peu plus, généralement, en tout cas. Donc moi, ça m'aide bien de fonctionner de manière très pragmatique, quoi. Voilà, qu'est-ce qui doit être rendu le plus tôt? À partir de quel moment ça devient hyper pénible pour mes collaborateurs et collaboratrices, etc. Et donc, beaucoup communiquer pour moi aussi, quand on est sur des projets de groupe, notamment. Bon, là, je travaille aussi sur un projet audiovisuel, donc encore, je ne peux pas en parler, mais on travaille sur un projet. Et du coup, avec les chargés de projet avec qui je bosse, en fait, j'ai été très claire là-dessus. Je leur ai dit, il faut absolument me donner des deadlines précises. C'est-à-dire à un moment, moi je ferai le taf parce que voilà, j'ai envie de le faire, je suis hyper motivée et tout, je vais vous simplifier la tâche aussi au maximum et vous montrer que je peux le faire. Mais voilà, quand vous me dites faut écrire tel texte, vous me dites il faut qu'on l'ait avant tel jour, telle heure, etc. Et ce sera fait, et c'est toujours fait parce que je l'ai en tête en fait, et parce que je respecte le travail qu'on a ensemble. Donc je pense que fonctionner à l'urgence, c'est bien, se faire des petites listes comme ça de qu'est-ce qui doit être rendu en priorité. C'est pas miraculeux, parce que si malheureusement vous êtes passionné par le projet qui est censé être rendu dans le plus longtemps, je sais que ça peut être problématique, mais pour moi ça marche plutôt bien communiquer avec les gens pour être sûr de qu'est-ce qui doit être fait, etc. et je pense que ça m'aide bien. Et après en fait, je crois que je m'auto-check très régulièrement sur ce que j'aime faire, ce que je veux faire, ce que j'attends du projet. Parce qu'en fait, il y a une grosse quantité de travail que je fournis qui n'est pas rémunérée dans ma vie, malheureusement. Parce que aussi, il y a plein de choses que je ne veux pas, sur lesquelles je ne veux pas capitaliser. Il y a plein de choses où je sais que si je capitalise dessus, je vais perdre de l'intérêt parce que ça va me mettre de la pression. Donc, du coup, ça va être too much pour moi et l'amusement que je peux avoir à le faire va baisser. Donc en fait, c'est toujours une question de négociation avec moi-même Et ça, je pense que c'est très, très, très important de ne pas négliger ça. Mais quand je dis régulièrement, c'est-à-dire que je pense que je me pose la question, moi, une fois par semaine, même en faisant autre chose, hein, franchement, on fait la vaisselle, on fait quelque chose. Bon, en plus, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'activités manuelles avec le café. Donc, voilà, en faisant du nettoyage, en faisant de réfléchir à ça, en se disant où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui m'amuse, quelle concession je suis aussi prêt ou prête à faire par rapport à tel type de travail, qu'est-ce que je veux sanctifier de toute pression, et donc me dire ça par exemple c'est pas urgent. Et du coup je donnerai un exemple pour terminer, mais par exemple mon podcast Z comme Zodiac, depuis le début je dis ça c'est mon bébé, je le protège de toute injonction à la productivité. Donc au début c'était tous les mois, maintenant c'est un épisode par an, et en fait c'est comme ça. Après il n'y a pas de pub, il n'est pas monétisé, il est accessible gratuitement, voilà, sur toutes les plateformes, les Spotify, les Deezer, etc. Les gens peuvent écouter, réécouter. En plus, il y a vraiment un peu un format court d'astrologie, donc les gens peuvent prendre des notes et tout. Et en fait, je refuse de culpabiliser voilà, sur ce côté. Bah, maintenant, c'est un épisode par an, et peut-être ce sera même un épisode tous les 2 ans, j'en sais rien, voilà, peu importe. Parce que c'est pas grave, en fait. La priorité, elle est pas sur ça tout de suite. Donc ça, c'est un conseil que je pourrais donner. Je sais pas si ça aidera des gens, mais je l'espère.
Franchement, j'ai trouvé tes précieux conseils. Tes conseils.
C'est gentil.
Du coup, si je résume, il y a ce côté se mettre des deadlines. Et si j'entends bien, c'est cool pour toi d'avoir d'autres personnes avec qui tu travailles, parce que tu peux, en plus de ça, bah, communiquer avec, et du coup bah, mettre les deadlines avec ces personnes, c'est vraiment chouette. Mais pour les indépendants qui sont à leur compte, s'auto-mettre des deadlines, ou moi tu vois, ce que j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est si on n'est pas nécessairement entouré avec des associés ou des collaborateurs, collaboratrices, c'est alors le mot coach il est galvaudé, mais pourquoi pas avoir un pote ou une personne à qui se référer et qui serait prête à jouer le jeu de se dire ok, attends, je vais te rappeler ta deadline ou des trucs comme ça. Enfin, moi c'est un truc que je commence à mettre en place et qui marche pas mal, parce que justement je suis un peu du genre à me disperser et à aller faire les trucs qui m'amusent, et puis finalement il y a quand même des choses importantes si on veut gagner sa vie et faire quand même...
On se sait.
Et puis en dernier, bah, quand même continuer à mettre de la joie et de l'amusement sans se mettre la pression sur les projets, le ou les projets qui nous tiennent à cœur. Et puis toujours se remettre en question. Hyper important. Écoute Théodore, je pense que j'aurais pu faire durer le podcast encore une heure de plus, parce que j'ai 1000 questions pour toi et j'ai trouvé l'échange hyper riche. Est-ce qu'il y a un sujet ou une question que je t'ai pas posée, quelque chose que tu aurais aimé aborder ?
Là, tout de suite, non, pas particulièrement. Je pense qu'en fait, un des sujets sur lesquels je réfléchis énormément en ce moment, en fait, on l'a un petit peu abordé à la fin, donc c'est très bien. C'est-à-dire les réflexions aussi sur le temps passé sur du travail qui n'est pas rémunéré, et où je pense que c'est très bien. C'est très bien aussi même que l'idée de travailler, d'entreprendre au sens très large, qu'on le retire justement de cette réalité capitaliste hyper brutale, hyper mondialisée et hyper toxique, et dont il va falloir sortir, tout en ayant du respect pour ce qui est fait et pour ce qui est accompli et pour ce qui est créé. Et donc, ouais, je pense que j'inviterais vraiment... mais voilà, comme je l'ai dit, on l'a un petit peu déjà fait. Mais les gens à se poser des questions sur leur travail, et même réaliser à quel point c'est pas parce que... Il y a des choses où on dit non, mais c'est pour mon hobby, c'est pour le fun one, c'est du travail en fait aussi qui est fait. Et de se poser des questions, de se célébrer du coup quand on se dit c'est super, j'ai fait des choses et en fait j'étais pas obligée, parce que concrètement ça m'a pas rapporté de clients, ça m'a pas rapporté d'argent, ça m'a pas. Et en fait c'est un peu cadeau, voilà, pour les personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce contenu ou d'une manière ou d'une autre, de se célébrer, mais aussi justement de relâcher les enjeux d'accomplissement, etc. Voilà, ça pourrait aussi faire un épisode d'une heure de réfléchir à tout ça. Et on l'a déjà un petit peu abordé, donc je pense que ça peut être une bonne piste de conclusion.
Trop bien. Moi, je suis quand même obligée de rebondir dessus parce que c'est vraiment le sujet du moment. Et hier, j'ai envoyé un vocal à Laura pour lui partager ça. Mais vraiment, ce côté où, enfin, perso, tu vois, genre, tout ce qui m'a passionnée, genre, direct, avant, je le voyais sous un prisme, tiens, comment je peux faire un projet avec? Et un projet productif, rentable, qui aide toujours. Il y a cette volonté de partage, mais il y avait toujours ce côté business, argent derrière. Et là, vraiment, j'ai pris conscience qu'en fait, je pouvais aussi faire des trucs cool sans me mettre la pression, comme tu dis, et juste m'amuser et kiffer. Et que, en fait, ça relâche tellement de choses. Et je pense qu'en plus, en faisant ça, ça permet de prioriser ben, là où on veut quand même gagner de l'argent et où, en fait, il y a un moment, c'est la vie, quoi, il n'y a pas le choix, il faut de la thune. Mais de ne pas vouloir toujours mettre toutes ses passions et tous ses partages sous le prisme de cette productivité financière, business et tout ça. Et je trouve que, ouais, c'est un sujet passionnant, quoi. Les personnes qui t'ont écouté et qui se disent putain, il est trop intéressant, Théodore, j'ai trop envie de lui.
Ah.
Où est-ce qu'on peut les rediriger?
Alors, j'ai donc plusieurs comptes Instagram. Si vous êtes intéressé par l'astrologie, vous pouvez aller voir mon compte Z comme Zodiac et, comme je disais, écouter le podcast éponyme. Voilà, l'émission du même nom sur toutes les plateformes. Normalement, c'est disponible. Voilà, Spotify, Deezer, c'est hébergé par Acast. Vous pouvez aller sur Acast directement si vous n'avez pas ces applications-là. Et vous pouvez me retrouver en librairie pour plusieurs livres d'astrologie. Il y a Astromap, qui est un livre pour apprendre à décrypter son propre thème. Il y a également un livre qui s'appelle Le Zodiaque a-t-il un sexe et qui est un essai qui se veut vraiment accessible pour tout le monde, que vous aimiez l'astrologie ou pas, et qui est un bouquin de réflexion sur le genre en astrologie et qui essaie de proposer des pistes sur comment pratiquer une astrologie qui soit la moins excluante et la moins binaire possible. Et à côté de ça, vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram un peu plus perso, qui est tout jeune, qui s'appelle Bienvenue à ma Tea Party, et qui est un compte sur lequel je parle, pour le moment en tout cas, principalement de mon parcours de transition, mais qui se veut, voilà, un compte un petit peu plus perso. Et puis, si vous voulez venir manger dans mon restaurant, c'est Café Contresort, et on est aussi sur Instagram. Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, je disais avec beaucoup d'humour pour Bienvenue à ma
Allez.
partie. C'est très plaisant de suivre toutes tes.
Merci beaucoup. J'aime bien faire des blagues. Là, ça me détend.
Alors. Écoute, merci beaucoup Théodore, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui.
Ben, merci à toi, Roxane. Merci de m'avoir accueillie.
À très vite.
À très vite.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Pour retrouver les notes et les partages du podcast, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Et pour toute question, remarque, demande, avis et partage, vous pouvez m'écrire et découvrir les actualités du podcast via Instagram @RoxaneBlondel. À très vite pour un nouvel épisode.